À 11h sur France Culture, il est l'heure de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Tout va bien?
Bah oui.
On va parler de la Tunisie aujourd'hui. Le 15 septembre dernier, 8 ans après la révolution de la chute de Ben Ali, décédé hier dans son exil saoudien, les Tunisiens étaient invités aux urnes pour élire leur futur président. Et le premier tour a vu la victoire assez inattendue de deux candidats anti-système, non issus des partis de gouvernement. Le juriste et constitutionnaliste Kais Saied, arrivé en tête avec 18,4% des suffrages exprimés, suivi par l'homme d'affaires actuellement en prison, Nabil Karoui, qui a rassemblé 15,6% des voix. Alors que se passe-t-il en Tunisie? Qui sont ces candidats atypiques? Comment expliquer leur victoire? Comment expliquer aussi l'effondrement des partis traditionnels, Nida Tounes et Nahda? Qu'est-ce que ce résultat nous dit de la démocratie en Tunisie et de son évolution depuis 2011? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Khadija Mozenfinan, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante à l'Université Paris 1, vous êtes également journaliste pour Orient 21. À vos côtés, Belir Nabli, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Avant d'évoquer la Tunisie ensemble, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient des Émirats Arabes Unis, c'est Armin Arefi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes journaliste au Point. Vous êtes allé donc aux Émirats Arabes Unis, votre papier s'ouvre sur un parking d'un quartier d'Abu Dhabi, un homme descend d'un gros 4x4 avec son keffieh, une tunique blanche, il est suivi d'un autre homme, un seul, il se dirige assez paisiblement dans un restaurant de la ville, il se fait interpeller par un autre homme qui vient le saluer, qui lui présente son fils, ils échangent quelques paroles, et cet homme, c'est qui? C'est Mohamed Ben Zayed, qu'on appelle parfois MBZ, prince héritier des Émirats Arabes Unis. On pensait que ce genre de dirigeant était totalement coupé du monde, totalement coupé de ses citoyens. C'est visiblement pas le cas?
Non, pas du tout. J'ai cette scène que je décris, j'y étais. En fait, je me rendais dans ce restaurant où il a ses habitudes, un restaurant australien, occidental, avec pas mal d'expatriés à l'intérieur. Et donc, je vois ce 4x4 et cet homme descendre du siège conducteur. Hein. C'est lui qui conduisait lui-même son 4x4. Il n'est pas accompagné de garde du corps. Et il arrive au beau milieu du restaurant, il mange sa salade et échange avec un interlocuteur en lui montrant son portable. C'est quand même une scène assez hallucinante. En sachant le pouvoir qui est prêté et dont il dispose aux Émirats Arabes Unis, où il est ce prince héritier, le dirigeant de fait de cet émirat, le président étant affaibli par un AVC, mais surtout le pouvoir dont il dispose et l'influence qu'il a dans tout le monde arabe, de l'Algérie jusqu'au Yémen, en passant par l'Égypte, par la Libye, à chaque fois au service des généraux, des militaires, du retour de l'ordre autoritaire établi, et même jusqu'à la Maison-Blanche.
On va revenir justement sur son influence et son influence justement auprès de l'administration américaine, mais cette proximité, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est feinte? Parce que vous décrivez notamment par exemple l'autre homme qui l'accompagne, se dirige vers l'homme qui était en train d'essayer de le prendre en photo ou de le filmer, et il lui dit « t'oublieras pas de mettre ça sur les réseaux sociaux ». On voit quand même qu'il y a aussi un peu de communication derrière tout ça.
Oui, il y a beaucoup de communication, ça fait partie justement de ce que sont aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, avec ces messages de tolérance, d'ouverture, mais ce qui est intéressant, en me rendant sur place, c'est de me rendre compte que ce n'était pas totalement faussé. Il faut savoir que c'est un pays unique, c'est 9 millions d'habitants, dont seulement 1 million d'Émiriens, un pays qui est richissime, qui possède 6%, notamment l'Émirat d'Abu Dhabi, 6% des réserves de pétrole prouvées. Donc c'est un pays où ses habitants, tout du moins ses habitants nationaux, qui sont donc minoritaires, seulement 10% de la population, sont richissimes et bénéficient amplement de la redistribution de la rente pétrolière. De fait, il ne leur arrive pas souvent de critiquer celui qui les dirige, car comme me l'a précisé dans cet article le chef de l'organisme de contrôle médiatique, le National Media Council. J'ai eu l'éducation gratuite, j'ai eu la sécurité sociale, en tout cas les soins gratuits, une bourse pour l'étude, un prêt pour une maison. Pourquoi diable critiquerais-je ce dirigeant? Et c'est vrai que on peut aujourd'hui, tout émirien et même étranger peut participer à ces majlis, donc ces salons de rencontres avec les citoyens qui sont organisés par MBZ deux fois par semaine, où on peut lui serrer la main. Il a une attention pour chaque personne. C'est quand même assez surprenant et c'est quelque chose qu'on ne verrait pas, par exemple, en France. Moi, je n'ai jamais vu une personne aussi puissante qui n'était pas entourée, ou alors très peu entourée.
S'il est aussi abordable, Armin Arefi, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé le voir?
Alors ça c'est de ma faute, parce que moi quand je l'ai vu je me suis précipité.
C'est pas que de votre faute, il ne parle jamais aux journalistes étrangers.
Enfin, il n'accorde jamais d'interview, non je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème, donc là moi je me suis précipité vers lui, et là j'ai été arrêté par les gens qui étaient avec moi du National Media Council, qui ont d'une certaine manière voulu être plus royalistes que le roi, en me disant oh non mais ça ne se fait pas, c'est un peu voilà le leader, le paternel, il ne faut pas le déranger, non prenez si vous voulez des photos, d'ailleurs j'en ai pris, il y a la photo, je le prends en selfie avec une Australienne ici d'ailleurs prête volontiers à ce jeu des selfies, il parle avec des jeunes, il pose des très 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 sympathiques en tout cas lors de cette séquence, mais c'est vrai que voilà, d'une certaine manière, ils n'ont pas voulu que je le dérange, alors que ça n'aurait, à mon avis, posé aucun problème. Bon, ils ne m'auraient pas donné de secret, mais j'aurais demandé, de façon, je fais mon boulot de journaliste, donc qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que ce n'est pas étrange de vous voir ici? Ils m'ont répondu, à mon avis, non. Donc, de toute façon, ce n'était pas extrêmement important pour ce que je racontais, si ce n'est que pour avoir peut-être quelques mots au point.
Armin Arefi, parlons un peu des liens avec les États-Unis. Vous racontez comment, avant même que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, Mohamed Ben Zayed se rend secrètement du côté de New York. Il rencontre Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, le gendre et conseiller du président. Il rencontre également Steve Bannon, l'ancien stratège de Trump. Qu'est-ce que ça nous dit des liens exacts qu'il entretient à ce moment-là avec les États-Unis?
Il a déjà été très échaudé par la présidence Obama, où il avait des relations notoirement mauvaises avec le président démocrate, parce qu'ils estimaient, lui et d'autres dirigeants arabes du Golfe à l'époque, que Obama les avait lâchés, en ne soutenant pas, en participant en tout cas au renversement d'une certaine manière d'Hosni Moubarak, en tout cas en ne le soutenant pas au profit des frères musulmans, surtout en concluant un deal, l'accord sur le nucléaire iranien, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Trump s'en est retiré. Donc, avant même la prestation de serment de Donald Trump, on a ce MBZ donc, qui se rend secrètement à New York, sans même en prévenir Barack Obama, qui est à l'époque encore président en exercice, pour rencontrer donc les personnalités les plus influentes de la future administration et pour les travailler. Et ce travail va porter ses fruits parce que un mois plus tard, Trump est investi président des États-Unis et quelques mois plus tard, il va épouser exactement la vision, non pas de MBS, comme le saoudien MBS, prince héritier qu'on a présenté comme le prince tout puissant, non, de MBZ, à savoir le moment où MBZ va décider, parce que c'est de lui que vient cette décision de placer le Qatar sous embargo, sous blocus économique, terrestre, maritime. Cette action quand même assez rarissime entre des pays arabes du Golfe qui sont alliés et alliés des États-Unis.
C'est le moment de la première rencontre de Donald Trump. Fait son premier déplacement dans la région. Il est en Arabie Saoudite. Il y a un dîner qui est organisé. MBZ est évidemment invité par son acolyte Mohamed Ben Salman.
Il présente MBS. Voilà, justement. Alors ça, c'était quelques jours. En fait, ce dîner a lieu quelques jours avant le sommet. MBZ présente MBS, donc le saoudien, à Jared Kushner, Steve Bannon et Flint, le conseiller à la sécurité nationale.
Il leur dit qu'il est nécessaire de punir le Qatar.
Voilà pourquoi, parce que le Qatar soutient le terrorisme, c'est-à-dire les frères musulmans, est trop proche de l'Iran. Sauf donc, et c'est ça qui va encourager donc le blocus, qui va être endossé par Donald Trump, qui va dire c'est super, effectivement, très bonne action des Émirats et de l'Arabie Saoudite contre cet Émirat qui est accusé de financer le terrorisme. Le problème, c'est que Trump, à ce moment-là, ne se rend pas compte, ou peut-être qu'il n'est pas au courant, qu'il l'a oublié, que la plus grande base américaine au Moyen-Orient se trouve au Qatar. Et à l'époque, le secrétaire d'État américain de l'époque, Rex Tillerson, qui est en déplacement en Australie, revient très rapidement à Washington pour essayer justement de calmer le jeu et de ramener le président à la raison, ce qu'il arrive à faire. Donc il est envoyé.
Pourquoi? Parce que vous pensez que peut-être l'intention réelle de Mohamed Ben Zayed, c'était peut-être d'aller plus loin, peut-être d'envahir, qui sait.
D'après les responsables qatariens à qui j'ai parlé, il y avait des troupes massées, donc des troupes émiriennes et saoudiennes massées à la frontière pour préparer une invasion parce qu'ils ne pardonnent pas au Qatar ses liens avec les frères musulmans. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a entre les Émirats et le Qatar les deux faces, les deux visions au sein du Golfe. D'un côté, aux Émirats, le soutien au pouvoir militaire ou même aux dictatures militaires établies. On voit aujourd'hui en Égypte avec Abdel Fattah al-Sissi, que l'on voit en Libye avec ce soutien tous azimuts au maréchal Khalifa Haftar, que l'on voit aussi au Soudan. Ils ont été le principal soutien financier du conseil militaire de transition qui était quand même rendu responsable d'un grave bain de sang à Khartoum. Alors que de l'autre côté, le Qatar, eux, c'est le soutien au mouvement révolutionnaire, notamment au mouvement islamiste des frères musulmans dans tous les pays que j'ai cités.
Qu'est-ce qui déplaît tant à Mohamed Ben Zayed ? Pourquoi cette défiance vis-à-vis du Qatar, vis-à-vis des frères musulmans ? C'est quoi le problème ? Visiblement, ça a l'air de remonter assez loin, ce que vous explique
effectivement, au fait,
un proche de Mohamed Ben Zayed.
C'est une des histoires, en tout cas officielles, à savoir qu'il a eu un tuteur, parce qu'il faut savoir que dans les années 70, à la fin, en tout cas début des années 70, à la fin de Nasser en Égypte, les frères musulmans sont expulsés ou sont contraints de quitter l'Égypte, et beaucoup viennent devenir les cadres l'éducation, dans l'économie de beaucoup de pays du Golfe, et très vite, les frères musulmans vont commencer à s'imprégner des rouages de tous ces états-là, de les infiltrer et de développer leur idéologie. Donc le tuteur qui s'appelait Zedine Brahim, le tuteur de Mohamed Ben Zayed, est un frère musulman. Mohamed Ben Zayed se rend compte de la volonté de ce tuteur justement de lui donner une éducation islamiste avec derrière un projet politique, ce qui ne lui convient pas, d'autant que son père, Cheikh Zayed, le fondateur des Émirats Arabes Unis, est quelqu'un qui quand même est très tolérant et qui veut développer le pays selon une certaine ouverture, en tout cas au niveau des mœurs et du projet politique. Donc aujourd'hui, pour eux, ils ne font pas la différence donc entre frères musulmans et Daesh. Tout le spectre islamiste, pour eux, il n'y a pas d'islamisme modéré, c'est terroriste. Cette image maintenant sert justement de justification au soutien justement de toutes les dictatures militaires aujourd'hui au Maghreb, et ce qu'on a appelé la contre-révolution. C'est-à-dire que partout où le printemps arabe est passé à secouer ces pays, MBZ et derrière lui donc la manne pétrolière ont soutenu financièrement les militaires, le retour des militaires, au détriment du mouvement révolutionnaire. Le souci, c'est que ça, c'est un slogan qui marche beaucoup. Oui, pour nous, islamisme politique, islam modéré n'existe pas. Ça fait mouche en Occident, notamment en France, chez Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que MBZ murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron par messagerie WhatsApp, ce qui a le don d'irriter ses conseillers. Il en fait de même avec Jared Kushner. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est assez sur ces questions de la maîtrise, les réseaux sociaux. Le problème, c'est que d'un côté, effectivement, il est là pour réprimer toute forme d'islamisme politique, mais de l'autre, en fait, son but, c'est d'éviter à tout prix la participation des civils au pouvoir, tout mouvement démocratique. Donc c'est sous prétexte de miner, en tout cas d'empêcher toute accession des frères musulmans au pouvoir, c'est avant tout la volonté de vouloir empêcher tout pouvoir toute aspiration démocratique. Et on le voit très bien en Égypte, où aujourd'hui la situation est encore pire, par exemple, que sous Moubarak, bien au-delà du simple cas des frères musulmans.
Alors, on va revenir sur les considérations internes, mais si on reste un tout petit peu sur la diplomatie et sur la région, la question de l'Iran, comment MBZ se situe par rapport à Téhéran ? On voit bien, là, en ce moment, les tensions qui s'aggravent encore dans la région, avec cette frappe de drone qui a touché des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Il y a Mike Pompeo qui était cette semaine sur place, à Riyad, qui a parlé d'un acte de guerre de l'Iran, qui porte les empreintes, a-t-il dit, les empreintes digitales de l'ayatollah, compte tenu de cette proximité entre Washington et les Émirats Arabes Unis que vous décrivez, jusqu'où Mohamed Ben Zayed serait prêt à aller dans le conflit avec l'Iran pour aller dans le sens de Washington.
Ce qui est très intéressant, mais aussi paradoxal avec MBZ, c'est qu'il a été l'un des principaux architectes de cette politique américaine de pression maximale sur l'Iran. D'ailleurs, au-delà du simple Qatar, un de ses credos, justement, c'est la lutte contre l'Iran, en tout cas contrer l'expansionnisme et les activités déstabilisatrices de l'Iran dans la région. Et d'ailleurs, là aussi, Trump a répondu favorablement parce que, en participant à Riyad à ce sommet, peu après son élection en Arabie Saoudite, il a nommé l'Iran comme principal parrain du terrorisme. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant avec MBZ, c'est que il a poussé pour qu'il y ait davantage de sanctions contre le régime iranien pour le contrer. Sauf que il y a eu quand même des événements qui sont produits depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, on sent que l'Iran perd patience et à son tour oppose ce qu'on appelle une résistance maximale en commanditant directement ou indirectement des actes, des attaques contre des tankers, des pétroliers dans le Golfe, contre des installations saoudiennes récemment, mais même auparavant, en mai, en août. Et clairement, l'épisode qui a tout changé a été l'épisode du drone, non pas celui de samedi dernier, mais un drone américain, ouais. Effectivement, qui, ouais. a été frappé, éliminé par les gardiens de la Révolution au mois de juin. Tout le monde s'attendait, y compris John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale américain, que Donald Trump frappe l'Iran en retour, ponctuellement, le site qui avait éliminé ce drone. Ce qu'il a été à deux doigts de faire avant de faire volte-face. Et ça a été extrêmement mal perçu aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite et même jusqu'en Israël, et illustrer d'une certaine manière que Trump ne veut pas faire la guerre en Iran. Et peu après, c'est très intéressant, on s'est rendu compte que les Émirats dont MBZ, ont calmé le jeu, se sont mis un peu en sourdine, se sont rendu compte qu'en fait, ils sont extrêmement proches, voisins de l'Iran, que ce pays ne disparaîtra pas de la carte, et que sans ce soutien militaire américain, les Américains n'étant pas sérieux, il faut s'accommoder de cet encombrant voisin. Et peu après, les Émiriens, pour la première fois en 6 ans, ont dépêché en Iran une équipe de garde-côtes pour discuter, négocier avec les Iraniens.
Il y a un autre terrain sur lequel les Émirats Arabes Unis sont extrêmement présents, c'est le Yémen. Depuis le déclenchement de la guerre au Yémen, c'était au printemps 2015, ils y jouent un rôle vraiment central. Hein. L'armée des Émirats a vraiment une place très importante.
C'est la seule qui est présente au sol, étrangère en tout cas. Oui.
Mais enfin, ça fait maintenant 4 ans que ça dure, plus de 4 ans que ça dure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le sentiment du côté de MBZ qu'il faut arrêter, qu'on est en train de s'enliser, qu'il faut sortir de ce conflit?
Alors tout à fait, il faut savoir que sur cette guerre du Yémen, MBZ a plutôt suivi MBS, c'était la guerre de MBS, donc Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, alors qu'il était ministre de la Défense et pas encore nommé prince héritier. Il devait le suivre parce qu'il a besoin du soutien saoudien, donc les Saoudiens avaient besoin d'expertise militaire des Émirats Arabes Unis, seule armée arabe efficace du Golfe. Sauf que, comme vous l'avez dit, 4 ans après, la situation est extrêmement délicate. Il y a des dizaines de milliers de morts civils. Et la situation s'enlise, les Saoudiens s'enlisent, les Émiriens aussi. Sauf que les Émiriens, eux, ont rempli d'une certaine manière leur part du contrat en débarrassant le sud du pays, la ville d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb au sud-ouest du pays, par lequel transite une partie importante des pétroliers empruntant la mer Rouge. Ce port-là Aden et ce détroit-là est contrôlé par les Émiriens. Les Émiriens ont quand même réussi justement à se placer, à obtenir une influence certaine dans le sud du pays, ce qu'ils ont déjà à l'est de l'Afrique. Donc d'une certaine manière, vu la situation actuelle, vu l'enlisement saoudien, ils ont annoncé qu'ils allaient entamer un retrait du pays. Donc là, on voit bien le pragmatisme de MBZ qui est à l'œuvre, et un pays qui n'est pas pour lui un pays essentiel dans son agenda aujourd'hui au Moyen-Orient.
Comment on a pris la nouvelle du côté de Riyad ?
Bah, je pense que c'est quelque chose qui... Il ne faut pas exagérer justement la dissension entre les deux pays. Ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Pour les Saoudiens, le Yémen, c'est leur arrière-cour. Ils voient les rebelles houthis comme la main de l'Iran. Et force est de constater, c'est quand même intéressant, que même si les houthis ne sont pas comparables au Hezbollah en ce qui concerne leur lien avec l'Iran, c'est quand même eux qui ont revendiqué la récente attaque en Arabie Saoudite. Ce qui montre qu'il y a quand même des liens étroits, si ce n'est au niveau politique. Mais je pense que les deux pays ont besoin l'un de l'autre. La vision aujourd'hui de MBS est celle de MBZ, c'est l'homme le plus expérimenté et qui va rester encore au pouvoir pendant un bon nombre d'années.
Toute dernière question, Amina Raifi. Vous écrivez, le succès des Émirats repose sur trois piliers, le pétrole, l'éducation et la tolérance. Le pétrole, on connaît. L'éducation et la tolérance, jusqu'où est-ce qu'on va?
Bah écoutez, ça a été quand même une belle surprise sur place, parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait véritablement un accent mis sur l'éducation. Aujourd'hui, on a eu de grands projets. La Sorbonne est présente, la New York University, les meilleurs MBZ, suivant, emboîtant le pas à son père, amènent les meilleures universités du monde entier à sa population, qui est quand même, il faut le rappeler, c'est la clé minime, c'est 1 million de personnes. Ce n'est rien du tout pour un pays quand même qui est extrêmement petit. Pour ce qui est de la tolérance, ce pays possédant 90% d'expatriés venant d'Occident, d'Europe, mais aussi d'Inde et d'Asie du Sud-Est, c'est un pays qui doit vivre, où la population doit vivre ensemble. Et il était quand même extrêmement étonnant de voir à Dubaï une synagogue, des églises à Abu Dhabi face à une mosquée anciennement nommée mosquée MBZ, Mohamed Ben Zayed, renommée mosquée, bon, il y a un peu de communication dans ça, mosquée Marie, mère de Jésus. Donc, je pense que ce slogan de tolérance, qui d'ailleurs que l'on retrouve sur les façades des grands immeubles des gratte-ciel d'Abu Dhabi, n'est pas faux. Ça correspond aujourd'hui à la réalité à l'intérieur du pays. Et je rappelle que il faut quand même s'en souvenir. Les Émirats, il n'y a pas de liberté d'expression aux Émirats. Il y a justement des militants des droits de l'homme qui sont condamnés à 10 ans de prison uniquement pour avoir soit porté atteinte à l'image du prince héritier ou alors à l'image du pays, mais que la majorité de la population, étant donné qu'elle a tout ce qu'elle veut, et que pour les expatriés, ils sont uniquement de passage et que leur permis de travail peut être révoqué du jour au lendemain, bah, ils considèrent quand même que c'est l'un des derniers et seuls pays arabes stables de la région.
Merci beaucoup, Armin Arefi.
Je vous remercie de m'avoir reçu.
Passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste au Point. On peut vous lire dans les colonnes du Point. Je rappelle également que vous êtes auteur d'un ouvrage qui est paru au début de l'année, Un printemps à Téhéran. Vous avez été correspondant à Téhéran. C'est paru chez Plon. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
افتخر فيها وذكر دبي عندنا من زمان طالي وفخر للعرب والناس تطريها
Allez, on va quitter les Émirats Arabes Unis pour prendre la direction de la Tunisie. On va parler des présidentielles. 8 ans après la chute de Ben Ali, l'insurrection électorale, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Oui, parce que le paysage politique est en train de changer en Tunisie. Pour preuve, la victoire au premier tour de l'élection de deux candidats totalement inconnus, en tout cas pas inconnus, mais hors du système politique actuel, Kais Saied et Nabil Karoui.
Nous attendons en tout cas les résultats officiels, mais ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant montre que j'ai remporté la première place. C'est une énorme responsabilité envers ce pays et ce peuple.
Le fait d'arriver au deuxième tour de cette élection présidentielle parmi 26 candidats signifie que vous avez dit clairement non à l'oppression, non à la pauvreté et non à la marginalisation. Vous avez dit oui à un état de droit.
Voilà, alors on entendait à l'instant Kais Saied et puis l'épouse de Nabil Karoui, parce que Nabil Karoui, il est en prison. Alors qui sont ces deux finalistes qui se disputeront la place de chef de l'État? Comment expliquer leur succès? Que révèle-t-il de l'évolution de la société tunisienne? Pourquoi c'est les candidats des partis aussi qui font la vie politique de la Tunisie post-Ben Ali ont été balayés? Pour évoquer toutes ces questions, Khadija Mohsen-Finan est notre invitée, enseignante à l'Université Paris 1 et journaliste pour Orient 21. Belir Nabli également, directeur de recherche à l'IRIS. Marc Semon, on va commencer avec vous comme on le fait chaque vendredi. Alors la bonne nouvelle, c'est que bah, désormais, visiblement, les Tunisiennes et Tunisiens ont clairement pris l'habitude de voter. Les élections se passent sans heurts, preuve d'une certaine normalisation quand même de la démocratie, de la vie politique du pays. Et en même temps, l'arrivée en tête, bien sûr, de ces deux outsiders, c'est le signe d'un certain ras-le-bol très clairement de la classe politique qui est aujourd'hui en place. Et d'une certaine manière, c'est évidemment le sentiment qui aussi avait conduit à la révolte populaire et à faire tomber Ben Ali, qui est décédé hier. Donc finalement, cette élection, elle est presque une réplique de la révolution 2011, d'une certaine manière.
Absolument, y compris dans ce vote qui a balayé les partis au pouvoir. Alors, le plus étonnant, c'est évidemment qu'A.S. Saïed, a priori, nul n'aurait misé un dinar sur lui. Il est probe, austère, c'est un juriste conservateur. Il est arrivé en tête au premier tour après une campagne totalement atypique. Il a pas de parti, pas de spot télé. Il parcourait le pays dans sa petite voiture personnelle. Il a annoncé d'entrée de jeu que s'il gagne, il n'irait pas habiter au palais de Carthage, qui est le siège de la présidence. Alors, lui, il est devenu connu parce que, après la révolution, il faisait des décryptages extrêmement élaborés et fins sur les enjeux constitutionnels de l'après Ben Ali. Alors il est raide, il parle l'arabe classique, il n'est pas toujours compris, mais ça évoque aussi les sonorités du Coran. Ce n'est pas un islamiste, mais c'est un ultra-conservateur qui est partisan du rétablissement de la peine de mort, qui est hostile à l'égalité homme-femme et aux droits des homosexuels. Alors son challenger, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est en prison, bon c'est classique, c'est du Berlusconi, c'est du Trump, on connaît. Dans ce scrutin surprise, K.A.I.S. Saïed incarne quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un espèce de refoulé de la révolution de 2011, comme l'a dit Hamadi Redissi, qui est un intellectuel laïque tunisien, c'est-à-dire un espèce de Robespierre, quelque part, hein, qui traduit une volonté de changement, de probité, de justice sociale, de pouvoir au peuple. Alors c'est dangereux dans une démocratie assez fragile. Il y aura les législatives le 6 octobre, donc celles qui vont évidemment ou rééquilibrer les choses, ou au contraire, encore accentuer, amplifier cette insurrection électorale dont tu parlais au début.
Alors, on va commencer, on va faire un premier tour de table. Kadhi Zemozen Finan, on va évidemment s'attarder sur les deux figures assez étonnantes, K.A.I.S. Saïed et Nabil Karoui. Moi, je trouve que les deux sont étonnantes. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des Nabil Karoui en Tunisie, mais bon, on y reviendra. Mais votre impression générale, Kadhi Zemozen Finan, vous étiez à Tunis il y a encore quelques temps. Ces deux personnages qui arrivent en tête du premier tour, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y avait 26 candidats.
Oui, il y avait 26 candidats, mais je crois qu'il y a des choses qu'on a oubliées depuis 2011. Je pense que la rupture institutionnelle et symbolique qui devait se faire et qui était demandée par les Tunisiens n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Et il y a des gens qui sont restés, effectivement, soit des refoulés ou autres, on peut les qualifier de différentes façons. Et je pense que K.A.I.S. Saïed en fait partie. Il en fait partie et il l'avait dit déjà à l'époque. Je pense que il fait partie de cette, si vous voulez, de cette classe, de cette société civile qui s'était insurgée contre la société politique et qui avait demandé un certain nombre de choses, par exemple le refus de la constitution de 1959 dans sa révision et avoir carrément une page blanche. Ils ont été suivis d'une certaine manière parce que les deux gouvernements, les deux premiers gouvernements post-Ben Ali qui étaient dirigés par le premier ministre de Ben Ali, Mohamed Ghannouchi, sont tombés. Mais par la suite, les choses ont été reprises en main à la fois par les anciens du régime, peut-être pas les caciques, mais ceux qui sont venus prolonger l'ancien régime. Lui n'en fait pas partie.
Belir Nabli, votre impression générale sur les deux personnages qui sont arrivés en tête du premier tour et qui vont donc être proposés aux électeurs pour devenir le chef de l'État tunisien?
Oui, disons qu'effectivement, il symbolise le rejet du système partisan et politique qui a émergé après la chute de Ben Ali. Et en même temps, on retrouve malgré tout l'agenda politique qui s'était imposé en 2011 par ceux qui ont fait ce qu'on appelle la révolution. Je veux dire par là que finalement, les mots MAUX qui ont nourri le mouvement populaire en 2011 sont toujours à l'ordre du jour. Et c'est le fait que la classe politique qui s'est imposée et qui est en partie héritière aussi de l'ère Ben Ali depuis 2011, le fait qu'elle n'ait pas réussi à répondre à cet agenda politique, d'une certaine manière, a été sanctionné. Et c'est un retour aux sources incarné cette fois-ci, une forme d'incarnation réussie par ces deux figures, certes anti-système, mais surtout qui ont réussi à nouer un lien avec la population, mais un lien qui n'est pas forcément un lien majoritaire. Je veux dire par là que il faut garder à l'esprit les chiffres qui se sont dégagés. Un niveau de participation faible, très faible, en net recul par rapport à la première élection présidentielle de 2014, libre et pluraliste quand je parle de première élection présidentielle, et il est là, finalement, où elle est là, la première sanction vis-à-vis de la classe politique post-révolutionnaire. C'est une forme de désenchantement démocratique qui se traduit désormais dans les urnes et qui se traduit, deuxièmement, par un choix relativement atypique, certes, mais en réalité avec une forme de logique. Encore une fois, ils ont réussi à répondre et à incarner le désenchantement démocratique, et ils ont réussi également à utiliser finalement cette société tunisienne médiatisée, très médiatisée, en ce sens où vous avez un point commun entre ces deux candidats qui apparemment sont extrêmement opposés, de manière très caricaturale, mais qui ont pour point commun le fait d'avoir maîtrisé de différentes manières l'outil médiatique. Puisque d'un côté vous avez un homme de médias, au sens littéral du terme, puisque Nabil Karoui est fondateur d'une chaîne très puissante, Nesma TV, que c'est un homme de communication, de formation et d'un point de vue professionnel.
C'est pas le cas de Kaïs Seyed. Et par ailleurs, il n'a pas fait énormément d'apparitions médiatiques, Kaïs Seyed.
Sauf qu'il n'existait pas au sens public. Ce n'était pas un homme public. C'est devenu un homme public depuis quand ? Depuis la Révolution. C'est un homme qui a construit une image involontairement au départ, mais qui a su finalement se construire une relation grâce à une forme d'expertise d'abord constitutionnaliste, mais surtout en construisant une image de probité, une image aussi rigoriste au double sens du terme. Il est pour une forme de langage robespierriste et en même temps une ligne sociétale très raide.
Maximo et puis Khadija Mohsen Finan.
Je reviens quand même à ce phénomène. C'est-à-dire, dès Nabil Karoui, on les a vus partout. Hein, que ce soit dans les pays de l'Est, après le communisme, avec les premiers désenchantements des démocraties, les transitions économiques qui sont douloureuses. Bon, ils promettent de l'argent, ils disent « je suis un exemple, vous pouvez devenir riche comme moi », etc. On connaît le phénomène. Est-ce que Kaïs Seyed ne traduit pas quelque chose de beaucoup plus spécifique et beaucoup plus profond, y compris justement par son côté d'être à la fois anti-système mais anti-média, parce que bon, c'est vrai qu'il passait très bien la télévision, c'est ce qui l'a rendu célèbre pour ses analyses constitutionnalistes, mais on est loin du candidat classique. Alors est-ce que, justement, pour en revenir à cette idée de la piqûre de rappel ou de refouler, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, là, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spécifique, qui n'est pas un islamiste classique, même si à la fin, El-Rada va voter pour lui, est-ce que c'est pas quelque chose vraiment d'étonnant, d'une certaine façon, par rapport à toutes ces transitions.
C'est étonnant, bien sûr, parce qu'il est difficile de le mettre dans des catégories qui sont les nôtres. Mais est-ce que ce ne sont pas nos catégories qui sont erronées aussi ? Nous n'avions pas inventé cette catégorie, parce que c'est un homme qui, effectivement, était l'invité des médias. Il paraît, pour la petite histoire, qu'il était invité quand on ne trouvait personne pour animer les débats. Mais ce qu'il y faisait sur ces plateaux de télévision était quand même très spécifique. Il expliquait, il se posait en homme intègre et il était déjà l'homme du refus et du rejet. Alors effectivement, Belir Nabli a dit tout à l'heure que les deux sont venus capitaliser, les deux candidats, sur l'échec des classes politiques ou des gouvernements qui se sont succédés. Mais il faut dire aussi que ces gouvernements n'ont même pas essayé d'aborder ou de commencer les réformes qui étaient nécessaires. Donc pour les Tunisiens, c'est vraiment un mépris profond, ce qui explique d'ailleurs le désengagement. Et si on regarde de 2011 jusqu'à aujourd'hui, le taux d'abstention est de plus en plus élevé. La grande sanction est venue avec les municipales, les élections municipales de 2018, où c'était déjà des figures indépendantes qui avaient émergé contre les leaders de partis politiques. Donc effectivement, il est à la fois atypique, mais si on regarde de près, il répond exactement aux attentes des Tunisiens, et pas seulement en matière d'économie ou sur les questions sociales.
Belir Nabli, sur la dimension atypique de Kais Saied. Et puis, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, mais vous allez répondre évidemment à cette question-là, est-ce qu'il représente une menace quelconque? Parce que j'entends qu'évidemment, bien sûr, il a fait de nombreuses critiques, de nombreux décryptages constitutionnels, et qu'il est vu comme un homme particulièrement intègre, etc. Mais il y a quand même des choses dans ses propositions qui peuvent un tout petit peu inquiéter. Par exemple, il évoque la possibilité de supprimer purement et simplement les élections législatives. Alors, est-ce qu'on peut aussi s'inquiéter du projet politique de cet homme? Est-ce que ça pourrait constituer une forme de recul pour la démocratie tunisienne? Belir Nabli.
Je dirais presque que si on va jusqu'au bout de l'analogie avec la figure robespierriste, par définition, il y a effectivement un risque pour tout processus démocratique, dans la mesure où, dès lors qu'on a la conviction d'avoir à la fois le savoir et la vérité en soi, ça devient rapidement problématique dans un contexte de transition démocratique, c'est-à-dire l'acceptation notamment d'un débat pluraliste et contradictoire. Et sa rectitude pourrait effectivement poser problème à un moment donné. Est-ce que cette menace est pour autant réelle? Pas forcément, grâce notamment au méandre institutionnel et constitutionnel tunisien, dans la mesure où il faut peut-être rappeler que même si on se focalise actuellement sur la figure des deux finalistes, entre guillemets, ça reste, du point de vue de la constitution de la Deuxième République, un régime parlementaire. C'est-à-dire que le pouvoir politique réside essentiellement à l'Assemblée des représentants du peuple, qu'autrement dit, l'élection importante au sens politique du terme, ce sera les élections législatives, et que le véritable enjeu, en particulier pour véritable enjeu pour lui sera de faire naître une dynamique politique qui se traduirait à l'occasion des élections législatives par une majorité susceptible de le soutenir ou de soutenir, ça, en tout cas, sa démarche.
Ça Et très compliqué, pour le coup,
dans la mesure où il a décidé de partir seul, c'est-à-dire sans structure partisane, sans stratégie électorale ou politique, en tous les cas, là, pour le coup, ça risque de se retourner contre lui, à moins de nouer une alliance de fait ou formel avec Ennahda.
Alors, on va se projeter évidemment dans les élections législatives. On va aussi quand même faire un sort à Nabil Karoui, parce que j'entends qu'effectivement Kais Saied est une figure extrêmement intéressante, mais Nabil Karoui, c'est celui qui est aussi arrivé en tête, donc je voudrais qu'on en fasse...
Je voulais juste revenir sur les législatives.
Allez-y.
Parce que, effectivement, il y a deux hypothèses. Ou il y aura une espèce de contre-mouvement, donc les partis vont reprendre du poil de la bête, etc. Mais, pour le moment... Il semble que l'émiettement et cette volonté de sortir les sortants continue. Et que donc le risque, y compris si lui, Kais Saied, n'arrive pas à avoir un parti, c'est qu'on ait un parlement fait de gens les plus improbables les uns que les autres, un espèce de grand dégagisme général qui, d'une certaine façon, ne pourra pas jouer ce rôle de contre-pouvoir par rapport à un Kais Saied qui a cette espèce de volonté de révolution conservatrice extrêmement affirmée et finalement assez dure.
Sans compter, j'ajoute quelque chose, c'est qu'on n'a pas encore la date du second tour, si je ne m'abuse, pour la
c'est
présidentielle.
Le 13,
non
ben non,
non ça peut être le 6, ça peut être le 13.
Eh oui, mais ça change tout. Si c'est, est-ce que c'est avant ou c'est après législatif, ça va tout changer. Khadija Mazen.
Je pense que le
mouvement de réaction est différent si vous avez déjà eu la présidentielle. Oui. Enfin, Khadija Mazen Finan.
Moi, je pense que appréhender cette question en termes de dangerosité est en elle-même dangereuse. Parce que il est peut-être dangereux, Kais Saied, mais pas là où on situe le danger. C'est-à-dire que sur ces questions sociétales, etc., c'est beaucoup moins important. En revanche, il parle beaucoup du pouvoir du local.
Il est pour une hyper-décentralisation.
Une hyper-décentralisation. Or, il n'a pas les moyens de décentraliser. La Constitution, aujourd'hui, ne lui en donne pas les moyens. Or, son projet va beaucoup plus loin. Il veut modifier la Constitution pour donner beaucoup de pouvoir au local, au régional et au national finalement. Alors, il faut voir aussi que confronté à la réalité, ça c'est un discours de campagne, confronté à la réalité, il risque de changer. On parlait tout à l'heure effectivement d'avoir des coalitions. Les coalitions, c'est facile quand c'est des partis politiques. Quand c'est quelqu'un qui vous dit « adhérez à mon projet, vous êtes les bienvenus », ça ne veut rien dire. Mais en même temps, ça veut tout dire. Ça veut dire que mes idées sont là, elles seront en tout cas appliquée. Et même si je n'ai pas beaucoup de pouvoir au sein du Parlement et que c'est le Premier ministre qui a l'essentiel du pouvoir exécutif, il arrivera à infléchir les choses. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une bonne chose que ça, de s'intéresser aussi aux régions? Et après tout, ça fait partie de ce qui n'a pas été fait depuis 2011.
Bélier Nabil, je vous laisse réagir et puis ensuite, je voudrais qu'on parle de Nabil Karoui.
Oui, juste sur le plan programmatique, effectivement, il y a une dimension intéressante du côté de Kreisheid, c'est finalement une forme d'imaginaire. C'est-à-dire, il a laissé cours à une imagination intéressante dans un processus de transition qui faisait défaut à la classe politique qui est née après la Révolution, qui pour le coup était non seulement assez classique, et assez inefficace. Là, pour le coup, on a eu le droit à des projections, à une vision du pays, avec notamment l'option décentralisatrice, et puis le choix de parler à travers une langue classique qui a parlé, pour le coup, qui a touché une partie de la population, notamment les jeunes éduqués. Bref, il y a une forme de romantisme, je dirais. Hein, qui a pu aussi expliquer la portée de son discours. Et puis, dans le même temps, il y a un point faible, non négligeable dans cette posture, dans la mesure où les principaux défis, malgré tout, auxquels le pays est confronté, sont des défis de nature économique et sociale. L'amélioration de la condition concrète des citoyens, c'est quand même l'urgence tunisienne. Et là, sur ce plan, on est confronté à un relatif vide programmatique. On ne sait pas quelles seraient ses options du point de vue économique. Là, pour le coup, Nabil Karoui est beaucoup plus clair, mais jusqu'à la caricature, peut-être. Et donc, là, pour le coup, il pourrait être attaqué quant au fait qu'il y a un vide, un angle mort, et qui signifie, en réalité, un décalage avec l'urgence du pays, l'urgence nationale.
Alors justement, Khadija Mozenfinan, ça nous permet d'introduire Nabil Karoui, parce qu'effectivement, lui, il est beaucoup sur ces thèmes de développement économique et social. Il dit qu'il faut mettre le paquet là-dessus. Il se présente très clairement comme un libéral. C'est quand même lui qui est arrivé en tête du premier tour. Il est en prison, je le disais tout à l'heure.
Non, Nabil Karoui n'est pas arrivé en premier.
Il est arrivé en deuxième, pardon.
À trois points derrière.
À trois points, oui, 15 points, absolument. Absolument. En attendant, il est en prison. Peut-être même, d'ailleurs, que le fait qu'il soit encore en prison va le renforcer, d'une certaine manière. Voilà, avec ce statut de victime, de martyr, ça peut lui donner un poids encore plus fort. Quelles sont ses chances?
Alors, Nabil Karoui, c'est différent parce que les méthodes de Nabil Karoui sont déjà connues. On les a vues ailleurs à l'œuvre. C'est-à-dire que il est allé vers les plus démunis, vers les laissés pour compte. Il a aussi pénétré le monde rural, ce qu'aucun candidat ne fait de manière traditionnelle. Ça, c'était
avec des opérations caritatives très bien médiatisées,
avec une fondation à partir de la mort de son fils qui porte le nom de son fils et qui effectivement est très opérante. Maintenant, il y a un autre aspect de Nabil Karoui qui a fait qu'il est venu derrière Kais Saïd et je pense que ça va lui pendre au nez beaucoup plus que son emprisonnement. C'est le fait qu'il était proche des anciens dictateurs. Ben Ali, sa chaîne est née en 2007. Ensuite, il a très vite changé. C'est-à-dire que le 30 décembre 2010, c'est quand même sa chaîne Nesma qui a diffusé le premier débat qui se passait dans la région de Kasserine, où les gens ont mis à l'index le pouvoir local. Donc, cet aspect de caméléon, d'aller dans le sens de celui qui vient, il a fait la campagne électorale de Bejaïd Sepsi et il a appuyé cet homme qui a fait revenir la Tunisie en arrière. Donc, ça, je pense que ça peut être utilisé contre lui et je pense que ça jouera parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont à l'esprit cette rupture qui paraît nécessaire tant au niveau symbolique qu'au niveau institutionnel.
Bélier Nabli, sur les chances de Nabil Karoui.
Disons déjà que son opportunisme politique est à la fois un indice quant à une forme d'intelligence politique, dirait Machiavel, mais qu'en même temps, ça interroge sa propre fiabilité. On ne sait pas On ne sait pas ce qu'il ferait plus que jamais si devait accéder au pouvoir, dans la mesure où il a un passé contradictoire.
Il n'a pas de programme.
Le programme ne dit pas tout sur un candidat. Il y a aussi un parcours. Il y a un parcours qui, précisément, est ambivalent, contradictoire. Effectivement, il était lié non seulement au régime de Ben Ali, mais surtout, il n'a pu devenir l'homme d'affaires millionnaire que grâce au fait d'avoir participé à un système qui lui-même a fait l'objet de la révolution. Donc, c'est un produit de l'ancien régime dans ses pires, dans sa pire dimension, sur le plan notamment de la corruption. Et d'ailleurs, il est poursuivi pour des affaires de blanchiment et de fraude fiscale. Donc, ça nous renvoie finalement à l'ancien régime. Ouais. Et en même temps, là où il a pu utiliser une forme d'opportunisme, il a bien vu finalement que là où le bât blesse depuis précisément la révolution, c'est l'agenda politique, la faculté du pouvoir post-révolutionnaire à renouer avec ceux qui ont fait naître le mouvement, c'est-à-dire finalement des populations délaissées de l'intérieur du pays, des banlieues, des grandes villes côtières. Et là, pour le coup, il a su saisir cette opportunité-là avec intelligence, avec un savoir-faire, celle d'un communicant. Toute la question étant de savoir est-ce que ce n'est pas un stratagème pour que finalement les intérêts de l'ancien régime reviennent de facto au pouvoir.
Vous parliez de système, on va justement en parler de système politique, du système politique de cette Tunisie post-révolutionnaire. Place à notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace, cette association caricaturiste du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian, bonjour.
Alors,
à toutes et à tous.
Le dessin que vous avez choisi ce matin nous plonge dans une salle de classe.
Oui, et ce n'est pas n'importe quel établissement scolaire. Nous sommes à l'école de la démocratie de Tunisie. C'est ce que l'enseignante a écrit sur le tableau. Cette femme souriante est vêtue d'un tailleur rouge aux couleurs du drapeau de la jeune démocratie. Elle incarne un pays qui est considéré comme un modèle pour le monde arabe et elle s'apprête à transmettre sa passion, à enseigner les fondamentaux de la démocratie aux dirigeants des pays voisins. Sur le tableau, elle a noté l'objet de la première leçon, élection présidentielle. Ce dessin, intitulé « Retour à l'école », a été croqué par Emma Dajaj, un dessinateur de presse jordanien. Il a été publié dans le journal panarabe Al Arabi Al Jadid le 2 septembre, deux petites semaines avant le premier tour de la présidentielle tunisienne. Sur ce dessin, l'horloge au mur indique 8 heures à peine passées. Ce n'est que le début d'un long apprentissage. Face à Madame Tunisie, les élèves prennent frénétiquement des notes. Au premier rang, Abdel Fattah el-Sissi fait la tronche. De rage, le président égyptien qui dirige son pays d'une main de fer a roulé en boule une feuille de papier. Il y a aussi MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, mis en cause dans l'affaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, va devoir travailler dur pour apprendre ce qu'est la liberté d'expression. Son comparse MBZ n'est pas très loin, le prince héritier d'Abu Dhabi dont on parlait plus tôt dans l'émission, griffonne sur sa feuille et sur sa table. Ce cancre affiche un sourire narquois, le signe peut-être qu'il ne prend pas la leçon au sérieux, surtout qu'elle est donnée par une femme. Et bien sûr, le général algérien Gaïd Salah n'a pas manqué à l'appel. L'homme fort du pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika pourrait tirer quelques enseignements de ce cours, alors que la date du scrutin présidentiel en Algérie vient d'être fixée au 12 décembre. Bon, il a encore du chemin à faire. Il vient d'interdire aux manifestants des autres préfectures de se rendre à Alger, où un nouveau mouvement social est prévu ce vendredi, comme chaque semaine depuis février. Décidément, la démocratie n'est pas une matière aisée.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois. On diffuse évidemment, on publie ce dessin sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter de l'émission. Réaction avec nos invités, Khadija Mohsen Finan, Belir Nabli, sur ce dessin. Qu'est-ce qui vous inspire ?
Oui, moi je trouve qu'il est très bien. Le fait que ce soit une femme, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un fâcheux épisode entre la Tunisie les Émirats Arabes Unis où les femmes tunisiennes n'avaient plus le droit de prendre les avions de la compagnie Emirates. peut-être trop libre, peut-être trop indépendante pour les Émiratis. En tout cas, c'est une page qui est aujourd'hui tournée. Non, je crois que il veut dire ce qu'il veut dire, mais ça veut dire aussi qu'après, il va falloir bâtir des relations très difficiles avec le monde arabe. Les deux candidats n'en parlent pas encore.
C'est pas un sujet. On n'a pas idée de ce que pourrait être leur politique extérieure à l'un et à l'autre, aux deux candidats.
Kais Saïd en a parlé. Il parle beaucoup de souverainisme, ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire, par rapport à qui, par rapport à quoi. Nabil Karoui est très tourné vers le monde occidental. Donc, on ne sait pas encore quelles vont être les relations régionales. Si, il a parlé de l'Algérie, Kais Saïd, il a dit que le premier voyage qu'il effectuerait serait en Algérie, peut-être pour neutraliser le grand frère algérien et pour bénéficier un peu quand même du renseignement qui nous manque beaucoup depuis que l'Algérie est entrée en rébellion. Donc, effectivement, ça va être très difficile d'avoir des relations apaisées avec les frères arabes.
Avec l'entourage. Belir Nabli.
Oui, non, naturellement, la caricature est pertinente, mais par définition aussi, elle mérite d'être nuancée. Alors, la Tunisie n'est pas un modèle pour les autres régimes arabo-musulmans, mais plutôt une expérience en soi qui pourrait inspirer, mais les analogies seraient limitées. Encore que, si on garde à l'esprit ce qui se joue aujourd'hui en Algérie, du point de vue en particulier des citoyens algériens, il y a l'exemple tunisien qui habite les consciences. Et là, pour le coup, les dirigeants actuels algériens voient dans la Tunisie, une source de tension, puisque concomitamment à la crise algérienne, nous avons une élection libre et pluraliste. Et donc, il y a là un choc des expériences extrêmement fort. Et en même temps, ça donne une réalité concrète à l'interdépendance des populations, des sociétés civiles dans cette zone. Et puis, ce qui me vient à l'esprit en voyant cette caricature, c'est la dichotomie ou l'opposition entre d'un côté des régimes non démocratiques et de l'autre des régimes démocratiques. Plus que jamais, cette binarité-là est dépassée, parce que ça nous renvoie à une forme de manichéisme qui ne se vérifie pas concrètement. La famille démocratique est confrontée à une vraie crise. Le phénomène de l'illibéralisme n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, à tel point que les fondements démocratiques sont interrogés dans un certain nombre de régimes européens, y compris dans un régime présenté comme l'exception au Moyen-Orient, je pense à Israël. Bref, on pourrait vraiment développer, je ne citerai pas Trump, aux États-Unis. Oui.
Alors, justement, peut-être qu'on pourrait interroger précisément ce modèle tunisien, le cours qu'est en train de donner cette maîtresse dans cette salle de classe. Est-ce que effectivement le modèle qu'elle propose, il est aussi bon que cela? Vous l'avez dit tout à l'heure, Khadija Mohsen Finan, finalement, l'économie ne s'est absolument pas améliorée, et pourtant c'était l'essentiel de ce qu'attendaient les Tunisiennes et les Tunisiens. Et même l'économie va moins bien qu'à l'époque de Ben Ali. On est à 15% de chômage, probablement beaucoup plus, quasiment un tiers pour les jeunes, on est à 7% d'inflation, on a un dinar qui s'est déprécié de 35% depuis 2011. Bref, tous les indicateurs sont au rouge. Si on n'a pas réussi à améliorer cette économie, c'est parce que, alors il y a eu l'immobilisme, mais c'est aussi parce que les réformes n'ont pas pu passer. C'est-à-dire que on n'a pas réussi au Parlement, l'exécutif n'a pas réussi à faire passer ces réformes. Alors est-ce que ce modèle-là, post-révolutionnaire, qui est en place, est-ce qu'il ne faudrait pas le changer? Est-ce qu'il faudrait, quitte d'ailleurs à le présidentialiser, avec évidemment, bien sûr, la menace possible d'un glissement autoritaire, mais...
C'est ce que propose Kais Saïd, d'ailleurs. C'est exactement ce qu'il propose. Je pense que c'est une expérience. C'est pas un modèle, et il faut pas, chaque pays a son histoire, son économie, sa situation géopolitique, etc. Et il évolue à son propre rythme. Et on a vu depuis 2011 qu'on a un chapelet de pays spécifiques, en réalité. Maintenant, dans le cas de la Tunisie, on est tombé d'un excès à l'autre. On nous a dit, sous Ben Ali, qu'on était les dragons du Maghreb, etc. On n'était absolument pas des dragons. Mais on avait une bonne croissance et on nous a dit que la démocratie pouvait attendre. Et on nous a dit, des choses qui reviennent aujourd'hui malheureusement, qu'il fallait avoir une certaine maturité pour avoir accès à la démocratie. On s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Et on a accédé à la démocratie mais l'économie n'a pas suivi. L'économie n'a pas suivi, non pas parce qu'on s'est intéressé beaucoup plus aux questions liées à la démocratie et aux questions sociétales, mais parce qu'on s'y est pas attelé. Parce que pour s'y atteler, il faut faire les réformes, vous venez de le dire, et les réformes sont très impopulaires. Or, on est tenu par des agendas électoraux qui font que chacun, et ça, on l'a conservé de l'ancien régime, veut pérenniser son pouvoir. Et cette volonté de pérenniser son pouvoir a pesé. Alors, bien sûr, il y a le fait qu'il n'y a pas de majorité franche qui se dégage, ou alors des majorités volatiles, et ça risque de s'aggraver dans les années qui viennent. Mais pour autant, moi, je pense que ce qui a été acquis au niveau de la démocratie est quand même très précieux. Et il faut le dire. Et il ne faut pas le ramener toujours aux questions économiques et sociales. C'est vrai que le dossier
c'est
est brûlant.
C'est la priorité pour les Tunisiens aujourd'hui, l'économie.
C'est la priorité.
C'est la priorité.
C'est la priorité. C'est la priorité. Ils disent que la liberté, la démocratie ne payent pas leurs factures. C'est une réalité.
Combien de Tunisiens aujourd'hui disent finalement on vivait mieux à l'époque de Ben Ali? On regrette pas Ben Ali, mais on regrette
oui,
l'époque de Ben Ali.
À cause de l'économie, à cause de la sécurité.
Parce que l'économie allait mieux, ouais. Belian Abli.
Oui, effectivement. En fait, ce serait une impasse, voire une aporie, d'essayer d'opposer le politique à l'économie et inversement. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans le cas tunisien, c'est que vous n'avez pas de mouvement réactionnaire profond. Et, dans le langage populaire, on dit cette phrase que vous avez prononcée, à savoir « c'était mieux avant ». Mais c'est sur le ton à la fois de la provocation et de la mise en accusation de la classe politique d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de désir profond d'un retour de Ben Ali au pouvoir ou de ceux qui pourraient l'incarner.
Non, on ne regrette pas Ben Ali, mais on dit qu'on vit, beaucoup de Tunisiens disent qu'on vivait mieux à l'époque
oui,
de Ben
mais
Ali.
C'est de fait.
Point. Et de fait, la croissance était bien meilleure, le dinar se portait mieux.
Mais justement, sur ce plan, l'UGTT, ce grand syndicat qui a joué un rôle fondamental, y compris au moment de la grande crise politique, pour permettre plus ou moins ce gouvernement du non-national, qu'est-ce qu'elle dit dans cette campagne par rapport à ces deux candidats maintenant?
En général, l'UGTT ne dit pas grand-chose. Oui, ce sont des faiseurs de rois qui ne s'expriment pas beaucoup. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent de grands discours. Ils vont choisir, ils vont évaluer le rapport des forces et ils vont se rendre indispensables à l'un ou l'autre des candidats qui a le plus de chances.
Et selon vous, ils n'ont pas choisi?
Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et ce serait plutôt Qais Saïd, en tout cas, que Nabil Karoui, qui est quand même très entaché pour ces questions de probité, que son adversaire met en avant, justement.
Belian Abli.
Oui, juste pour dire quand même que on est là sur un angle mort. C'est-à-dire que la campagne présidentielle, à l'image des précédentes campagnes, n'a pas permis une confrontation sur le modèle de développement qui pourrait incarner finalement cette révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'est concrétisée sur le plan politique avec un nouvel ordre politique, un nouvel ordre constitutionnel et institutionnel. Mais sur le plan économique, on n'a pas réussi encore à définir un nouveau modèle de développement dans les différents secteurs. Peut-être même repenser la priorité de certains secteurs économiques. Je pense notamment au tourisme et au modèle du secteur touristique qui est trop focalisé sur le tourisme de masse, tourisme balnéaire. Alors, il y a quelques initiatives, mais ça relève encore de l'initiative personnel, mais privé, sans soutien véritable d'une politique publique qui miserait notamment sur l'écotourisme, etc. Tout cela n'a pas encore l'importance qu'il devrait avoir dans les débats politiques, c'est-à-dire des questions de fond, des questions de modèle économique, et malheureusement, ce sont des questions de personnes, des jeux d'ego qui font encore trop la une et qui font que ça nourrisse finalement le rejet de la politique, du jeu politique.
On est très en retard, il va falloir couper cette magnifique voix. Madloum, un chanteur d'origine tunisienne qui s'appelle Jawawar. Merci beaucoup à nos invités. Khadija Mohsen-Finan, Belir Nabli, on va mettre tous vos ouvrages, les références de vos ouvrages sur, sur le site de France Culture, la page de Culture Monde. Un grand merci. Maxime, on se retrouve la semaine prochaine. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.